Bondy Blog Café.
www.bondyblogcentre.fr.
Quelques extraits des répétitions qui se tiennent actuellement en ce mardi 29 janvier de l'année 2019 au Théâtre des Minuits. Théâtre des Minuits situé à La Neuville-sur-Essonne, pas très loin de Pithiviers, dans le département du Loiret, dans le même département où dans quelques jours se déroulera la première représentation à Chalette-sur-Loing dans le Théâtre du Hangar. Je recherche mes notes. Dans le Théâtre du Hangar à Chalette-sur-Loing, d'une pièce intitulée « Une Algérie 1830-1854 », une pièce de théâtre qui a marqué l'inauguration le 22 novembre 2007 du Théâtre des Minuits, ici même à La Neuville-sur-Essonne. Alors aujourd'hui, pour ce Bondy Blog Centre Café, j'ai le plaisir d'accueillir quatre personnes qui ont participé à la création de ce spectacle. Il s'agit d'Emily Schmitt, de Mathias Olivier, Arnaud Parent et Stéphane De Welm. Voilà, tous les quatre, vous êtes comédien et auteur et également donc co-créateur de cette pièce qui s'intitule « Une Algérie 1830-1954 ». Cette période de l'histoire de l'Algérie, mais de la France également, fait référence à la colonisation de l'Algérie depuis la prise d'Alger en 1830 jusqu'à la date de 1954. Fin de cette colonisation, mais également début de la guerre d'indépendance de l'Algérie. On va faire un petit retour en arrière, parce qu'en ce moment, donc, vous êtes en train de faire les répétitions pour cette représentation à Chalette-sur-Loing. C'est une pièce de théâtre que vous avez souvent jouée ici même à La Neuville-sur-Essonne à minuit. Et donc, on va faire un petit retour en arrière avec donc, la création de cette pièce de théâtre à laquelle Gherardo Vitali Rossati avait contribué. Qui veut se lancer pour me faire une genèse de la création de cette œuvre, Arnaud?
Ça date de 2007. Je peux raconter comment on est en train de reprendre ce spectacle. Et puis comme ça me permettra peut-être de reprendre mes esprits. On reprend ce spectacle à la demande d'Emmanuel Menot, le directeur du théâtre du Hangar à Chalette. On lui en est très reconnaissant parce que il a entendu parler de ce spectacle et tout de suite il nous a dit ça m'intéresse et ça m'intéresse que vous remontiez ce spectacle pour le Hangar. On lui en est très reconnaissant parce que c'est un spectacle qui nous est très cher à nos cœurs et qu'on nous a finalement peu demandé. Les directeurs de salle, les programmateurs. Et souvent, quand on parle des spectacles qui sont à notre répertoire, il y a toujours beaucoup d'intérêt pour ce spectacle. Ça va rarement jusqu'au fait de nous demander de le jouer. Parce que, pour plein de raisons, sans doute que le sujet fait encore peur. Et donc, c'est un spectacle qu'on a peut jouer en dehors des murs de notre propre théâtre. C'est un spectacle qui est cher à notre cœur pour deux raisons. Parce que c'est un spectacle qu'on pense important et parce que c'est un spectacle, comme ça a été dit, qui a inauguré notre théâtre, auquel on a consacré beaucoup de temps, qui a été pour beaucoup notre école aussi. Et donc le remonter aujourd'hui, 12 ans après presque sa création, eh bien c'est important, voilà. C'est important et ça fait plein de choses dans la tête et le cœur.
Alors il s'agit d'une fresque historique, d'un livre d'images. Comment vous comment vous l'avez mis en place, où vous êtes documenté, comment vous êtes renseigné sur cette longue période de l'histoire algérienne qui couvre plus d'un siècle, de 1830 à 1954.
On a travaillé dès 2004, c'était déjà dans nos têtes, même avant 2004. On avait beaucoup voyagé à cette époque, entre 2002 et 2004. Je suis obligée de raconter notre histoire pour raconter aussi l'histoire de ce spectacle. Nous avons beaucoup voyagé entre 2002 et 2004 dans toute l'Europe centrale et donc dans tout l'ancien bloc de l'Est qui a été le sujet de beaucoup et l'objet de beaucoup de prises par des pays, par des États, par des empires. Et on a beaucoup réfléchi à ce que c'était qu'un empire, qu'est-ce que c'était d'être d'une certaine nationalité, qu'est-ce que c'était l'identité nationale. Et nous avons fait un premier spectacle en 2004, je crois, qui s'appelait La Forteresse, et qui est un spectacle plus onirique sur ces thèmes politiques et philosophiques. Et puis, de voyager beaucoup en Bulgarie, en Roumanie, en Serbie notamment, on s'est confronté à l'Empire ottoman. Donc, ça a été une première approche de l'orientalisme, on va dire, puisque les dés y habitaient, les dés comme le dé à Alger. Et on a réfléchi aussi à notre propre identité nationale, mais aussi à nos colonies, à nos empires à nous. Et de là est née l'idée de parler d'empire, de colonisation. Et on avait plusieurs pistes. On pouvait parler, je vais en parler puisque ça concerne mon histoire personnelle. On s'est un peu tourné du côté de l'Indochine, puisque je suis d'origine indochinoise. Mais c'est un sujet qui était presque trop facile esthétiquement. C'est donné, parce que l'Asie est très représentée au théâtre, et puis le théâtre asiatique est très porté au nu en Europe. Et donc, on a réfléchi à d'autres colonies. On a pensé à la colonie du Maghreb, aux colonies du Maghreb, et qui finalement concernait tout le monde. On a pensé à l'Algérie. Et finalement, on s'est aperçu qu'on avait tous un pied, d'une certaine manière, en Algérie. Qu'on ait été ou non pied noir, qu'on ait eu des aïeux qui aient fait la guerre. On avait parmi nous un de nos compagnons de route qui était né en Algérie, qui était algérien. Bref, on s'est dit, pourquoi ne pas regarder de ce côté-là et faire un spectacle qui serait le pendant de ce premier spectacle onirique, La Forteresse. Et on s'est dit, parlons de l'Algérie. Et on a commencé à se documenter. Donc de 2004 à 2007, on a écumé toutes les bibliothèques. Et puis peut-être que l'un de mes camarades va raconter un peu en pratique. Et puis même, si vous avez d'autres pistes.
Alors, une petite précision sur ce qu'est un dé. À Alger, en Algérie, c'est une sorte de seigneur local. On pourrait dire comme ça. Peut-être on va commencer juste, alors sans dévoiler évidemment le sujet, mais par cette anecdote du soufflet, de la gifle, je ne sais plus, de la tapette à mouche, de cet incident diplomatique en fait, qui a été presque forcé d'ailleurs par la France, qui était endettée vis-à-vis de l'Algérie à cette époque, qui a prétexté une profusion de corsaires dans la Méditerranée pour ne pas payer sa dette d'une part, et puis aussi se faire valoir auprès de ses électeurs, enfin on pense donc c'était Charles X à l'époque, enfin auprès de la population française plutôt, d'être un seigneur de guerre. Qui c'est qui pourrait raconter le début de en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé, cette anecdote? Alors j'ai dit du soufflet, c'est pas un soufflet.
Ah bah, alors vous donnez déjà trop de réponses à cette question. Déjà, ce que je peux dire, c'est que ça ne se passe pas, on est presque hors sujet dans notre texte, on n'est pas en 1830, on est en 1927.
En 1827.
J'ai dit quoi? Pardon, j'ai dit 1827, c'est le 29 avril 1827. Et d'ailleurs, c'est le prologue de notre spectacle. Donc, on n'est pas encore complètement dans la colonisation. On est juste sur un incident diplomatique. C'est un incident qui est arrivé et dont on n'a pas de témoignage direct. En fait, on est confronté... Si, on a plusieurs témoignages directs. On en a sept. Mais Arnaud, vas-y, raconte.
Ok, d'accord.
En quelques mots, sans tout dire. Hein,
on rentre effectivement dans une des problématiques.
Mathias.
Dans une des problématiques qu'on a rencontrées et qui rejoint la question d'avant, c'est comment se documenter et quel rapport à l'histoire. Et effectivement, pour cet épisode précisément, on a un nombre de versions incroyables. D'un outrage très fort à presque rien, etc. Alors, je laisserai Arnaud raconter les versions s'il a envie, mais effectivement, première problématique, un événement. Au minimum 3 ou 4 récits à peu près identifiables et plus si on cherche bien. Voilà, et ça c'est une des problématiques qu'on a eues très rapidement, hein, raconter une histoire avec plusieurs versions. Et c'est aussi là qu'on a trouvé une des solutions et une des pertinences de notre travail, c'est-à-dire faire du théâtre, c'est aussi pouvoir présenter différentes versions d'une même histoire finalement, côte à côte, sans forcément trancher. Alors que le travail de l'historien va devoir finalement faire un choix en général. Voilà.
Les difficultés peut-être aussi vis-à-vis des sources, parce qu'en tant que la France, pays colonisateur, forcément j'imagine qu'il y a beaucoup de documentation du point de vue du colonisateur et peut-être une interprétation des faits partisane. Je ne sais pas, vous avez réussi à trouver aussi des sources algériennes pour vous documenter ?
Alors c'est bien un spectacle finalement du point de vue français, c'est pour ça qu'il s'appelle une Algérie et non pas l'Algérie. Parce que effectivement, nous sommes français, nous avons accès à essentiellement des sources françaises et qui, pour un certain nombre, relèvent de la propagande française. Et on en a bien conscience. Voilà. Donc ça fait partie des choses qu'il a fallu prendre en compte également.
D'accord, vous en êtes conscient, donc vous n'avez pas été victime de cette propagande.
Si, on l'assume totalement.
Vous l'assumez, oui.
En fait, le sujet du spectacle, c'est pas l'histoire. Le sujet du spectacle, ce n'est pas la vérité. Le sujet du spectacle, c'est la représentation de l'Algérie dans la société française de 1830 à 1954. C'est comment est-ce que depuis la France, on a représenté l'Algérie pendant cette période-là. Ce qu'on feuillette dans ce spectacle, c'est le livre d'images de la colonisation. C'est vraiment tous les modes de représentation de l'Algérie, encore une fois, vus depuis un point de vue et depuis la France. Et ce qu'on propose aux spectateurs, c'est de revoir ces représentations. Parce que justement, comme l'a dit Mathias, notre point de vue est un point de vue qui est celui du théâtre. Ce que nous pouvons faire, c'est du théâtre. Là où nous sommes légitimes, c'est dans la pratique du théâtre. Nous n'avons pas fait travail d'historien. Nous avons fait travail de théâtre. Et c'est pour ça que la scène du coup d'éventail est aussi symbolique pour nous, parce que comme l'a dit Amélie, les historiens ont à leur disposition 7 témoins oculaires direct de cette scène. Pour résumer, le dé d'Alger reçoit le consul de France et au cours de l'entrevue, il y a un coup de sang, voilà. Il y a le ton monte et le dé finit par frapper le consul. Mais les 7 témoins directs oculaires de cette scène et qui en ont laissé un récit, il y a pas 2 versions identiques de ce même fait. Certains vont dire que c'est le consul qui a tapé, d'autres que c'est le dé. Les différences vont parfois jusque dans des détails ridicules. On parle d'un chasse-mouche, d'autres disent que pas du tout, c'était un éventail, que d'autres pas du tout. Et donc c'est très symbolique pour nous de la difficulté que l'on a à atteindre une vérité. C'est que, encore une fois, comment se dépatouiller encore une fois, de ces 7 récits différents de témoins oculaires. Et l'historien peut être désappointé devant la multiplicité comme ça des récits. Le théâtre se réjouit parce que nous, on peut se permettre de présenter aux spectateurs sept versions différentes. Et c'est par là qu'on commence le spectacle, en représentant ces sept versions différentes et en les assumant toutes les sept pour ce qu'elles sont. Pour une version chacune d'un fait. Et encore une fois, en présentant c'est cette version au spectateur qui est amené à, lui, pour le coup, se positionner. Et lui, pour le coup, essayer de se dépatouiller de la diffraction de la réalité.
Alors, on a avancé un petit peu, puisque là, on est en 2007, lorsque vous aviez présenté cette pièce pour la première fois. Vous avez parlé tout à l'heure, notamment Amélie, de pérégrination que vous aviez faite dans l'Europe de l'Est, qui faisait à l'époque partie de l'Empire soviétique, j'ai envie de dire, l'Empire communiste. Non, d'ailleurs, c'était la chute. Non, il était tombé, voilà, l'ancien Empire communiste. Dont certains pays, justement, figuraient encore sur la carte de l'Empire ottoman quelques décennies auparavant. C'est cet Empire ottoman dont vous parlez dans la pièce, puisque l'Algérie en faisait partie. Et vous avez dit que vous étiez tous plus ou moins liés à l'Algérie. Est-ce qu'on peut faire un tour de table où chacun nous dirait en quoi il se sent lié à l'Algérie et à cette affaire coloniale ? Alors, il y a Stéphane Dewell qui me fait des grands yeux, genre, pas moi.
Ben, moi, je peux juste dire qu'à part les exodes, on va dire, les migrations après des personnes qui vivaient en Algérie, que ce soit pieds noirs ou algériens, c'est juste des gens qu'on a côtoyés finalement après. Moi, je suis jamais allé en Algérie, j'ai pas de famille qui a vécu en Algérie. Vaguement dans la famille, soit grands-parents, soit oncles qui ont fait la guerre d'Algérie, mais sinon, enfin, c'est déjà lointain, quoi.
Amélie,
je dirais que moi, je ne suis absolument pas liée du tout à l'histoire de l'Algérie, mais que toute personne est liée à l'histoire de la colonisation algérienne. Ou aux suites de cette colonisation, c'est quelque chose d'universel. C'est-à-dire que même si on n'a pas un père, un grand-père qui soit né ou qui était à la guerre, on connaît forcément des gens, on côtoie, et ça fait partie de notre histoire commune. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est complètement tabou aujourd'hui. Oui, c'est tabou, c'est en tout cas un sujet difficile à aborder encore. Et je racontais que moi, je suis concernée par la colonisation, je suis le produit d'une autre colonisation, et comme tout le monde, en fait. Et que cette histoire que nous racontons, la colonisation de l'Algérie, est aussi une histoire universelle et qui résonne encore aujourd'hui, je crois, l'identité, l'indépendance, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. On en parle tout le temps aux infos, enfin, c'est complètement actuel.
La colonisation, Mathias.
Oui. Alors, moi, j'ai le même type de réflexion. Effectivement, je peux chercher dans ma famille. Hein. J'ai un parrain pied noir, j'ai un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie, tout ça, on le retrouve tous, en fait, finalement. Et surtout, j'ai l'impression d'être français et que l'identité française a, dans son histoire, est marquée dans son histoire par effectivement, le peuple algérien, le peuple français qui a vécu en Algérie et qui en est revenu. Enfin, tout ça, pour moi, c'est aussi l'identité française. Donc, je suis marqué en tant que Français par le rapport à l'Algérie, tout simplement. Plus, finalement, que par mes ancêtres que je n'ai pas connus, qui ont fait la guerre, ou par ce parrain que j'ai fréquenté quand j'étais petit. Même si, après, pour l'inspiration d'un personnage, ça peut être intéressant. Puisqu'un pied noir, quand on doit le représenter, en avoir un dans sa famille, c'est toujours sympa. Mais voilà. Le lien principal me semble être plutôt au niveau, finalement, de l'identité... française.
Arnaud,
J'ai un petit récit fondateur dans mon cas, un petit récit fondateur intime. J'ai un arrière-grand-père qui avait une ferme à la frontière belge et pendant la Première Guerre mondiale, il s'est retrouvé à bref, comment dire, il avait une ferme, voilà, et un jour, c'était à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, on est venu construire un bunker dans sa ferme, parce qu'il fallait compléter rapidement la ligne Maginot. Parce qu'on n'en avait pas construit dans un premier temps le long de la frontière belge, et il fallait compléter ça rapidement. Et ce sont des ouvriers originaires d'Algérie qui sont venus et qui ont été logés dans cette ferme. Et ma grand-mère, qui était une toute petite fille à ce moment-là, se souvenait avec émerveillement de la présence de ces gens qui venaient de loin de chez elle. Et j'ai l'impression que pour elle, ça avait été la première ouverture sur le vaste monde. Ça avait été le premier contact avec l'idée que le monde était beaucoup plus vaste que son petit village. Et elle en parlait toujours avec beaucoup, 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 encore une fois, d'émotion et d'émerveillement, et je pense que c'est un récit qu'elle m'a transmis et qui m'a toujours beaucoup impressionné moi-même étant enfant. Voilà.
Concernant, puisqu'on en parle, concernant l'accueil que peuvent vous faire les spectateurs, spectatrices face à ces représentations, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes d'origine algérienne qui sont venues vous voir et vous ont donné leur avis ? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit ?
Tous les soirs.
Oui.
Tous les soirs. Alors, ce qui est, on peut raconter le soir de la première. Le soir de la première de ce spectacle, il y a le spectacle. J'ai le sentiment dans mon souvenir qu'il ne s'est jamais terminé. C'est-à-dire que c'était très curieux. Pendant le spectacle dure 2 heures donc il est divisé en 3 actes, acte 1, acte 2, acte 3. Et pendant le troisième acte, moi j'étais dans la salle et je sentais que c'était de plus en plus mouvant dans le public. Et on sent un public qui commence à se mouvoir et ça bougeait beaucoup pendant le troisième acte. Et évidemment, il y a toujours cette inquiétude de la première, où on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Peut-être pas ce qu'on espérait. Et sur les dernières images du spectacle, il y a un spectateur qui manifestement n'y tenait plus et qui a commencé à dire tout est vrai, et à répéter en boucle. Tout est vrai, tout est vrai, tout est vrai. Et le dernier rideau est tombé sur la dernière image. Et immédiatement, la discussion dans le public a commencé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'applaudissements ce soir-là. Il y a eu immédiatement la discussion entre les spectateurs et la scène. Et je dois dire que chaque soir s'est reproduit une histoire identique, c'est-à-dire que les gens viennent nous voir en disant « tout ce que vous avez dit est vrai ». Et souvent, dans les gens qui sont là, il y a des gens qui se réclament de différentes mémoires, de différentes histoires, et qui disent la même chose « tout est vrai ». Et ça m'a toujours beaucoup impressionné, parce que justement, nous n'avons pas cherché un rapport à la vérité, mais tout simplement à la vérité de notre pratique théâtrale. On a cherché à faire des personnages, à représenter des scènes, à créer de l'émotion, et peut-être pas véritablement la vérité. Et pourtant, par le vecteur du théâtre, de la représentation, il semble que nous avons atteint une certaine vérité, ou que du moins les spectateurs, qu'on sollicite beaucoup dans ce spectacle, parce qu'on leur demande tout le temps de, pour le coup, prendre parti, pour le coup, se faire un avis. Et manifestement, c'est une expérience de vérité que vit le spectateur.
C'est assez complexe à comprendre parce que non mais bon des personnes après bon chacun son histoire mais de dire que cela est vrai c'était il y a plus d'un siècle c'est un peu ambitieux de vouloir, oui Amélie ambitieux de vouloir dire ça.
Alors le monsieur moi je me souviens parmi les gens de la première il y avait beaucoup d'élus locaux des gens qui sont des politiciens des gens qui sont élus et donc ce sont des personnes âgées. Et c'était beaucoup d'anciens, des anciens de l'Algérie. Et quand il disait « tout est vrai », c'est parce qu'en fait, il a reconnu la musique, il a reconnu la lumière, il a reconnu toute l'atmosphère. Il a dit « cette chanson que vous avez jouée à l'oud, puisque notre camarade Ambroise Biard joue de la musique, elle joue de l'oud, du luth oriental, elle a composé une musique spécialement hein, pour le spectacle, mais ce monsieur a reconnu un air alors qu'il a été écrit pour le spectacle et il a dit c'était exactement ça, les ambiances le soir quand on était au camp c'était cette lumière, c'était cette atmosphère et donc on a réussi à lui parler à parler à sa mémoire, à convoquer ses démons ou sa nostalgie aussi hein, parce qu'il y a de ça aussi mais de ça c'est un exemple mais on a eu aussi la fille de Marcel Cerdan, c'est ça la fille de Marcel Cerdan, donc oui. Il y avait son petit-fils qui était là. Il y avait son petit-fils, donc il était tout petit. Il y avait sa maman qui l'a accompagné. Et elle a dit, mais c'est ça, effectivement, c'est ma mémoire. Donc là, on n'était plus dans des anciens de l'Algérie, on est dans une famille pieds-noirs. On a eu des Kabyles, des Algériens, on a eu... Et tous ont dit la même chose. Alors que, comme tu disais, Arnaud, ce sont des mémoires, des histoires différentes. Ils se reconnaissent.
Ils se vivent comme concurrentes aussi. Pardon, qui se vivent aussi comme concurrentes et voilà, parce que le théâtre on convoque l'émotion, pas forcément la raison du coup je pense qu'on peut atteindre des choses effectivement peut-être. Pour être clair aussi, parmi les images que nous convoquons, la plupart sont fausses. Hein, ce qu'on feuillette, c'est un cahier d'images fausse. Je n'avais pas encore employé ce mot, mais bien sûr que les cartes postales du 19e siècle de l'Algérie sont évidemment des mises en scène destinées à un public métropolite de la métropole qui répondent à des représentations qui ne sont pas algériennes mais qui sont strictement métropolitaines. Le carnet d'images que nous feuilletons est un carnet d'images pour la plupart, fausses, inventées, fantasmées. Et pourtant, ces images font partie de celles avec lesquelles on doit se dépatouiller, avec lesquelles on s'est construit, avec lesquelles les imaginaires se sont construits. Et effectivement, pour interroger cette construction, ces imaginaires, il faut retourner, se remettre le nez dedans, se faire face, faire front, ouais.
Moi, je voulais aussi dire, quand les gens réagissent fort en disant « c'est mon histoire, c'est ça ce qu'on a vécu », c'est effectivement les dernières scènes du spectacle. C'est toutes celles qui parlent du XXe siècle, mais évidemment, ce n'est pas celle des deux premiers actes. Et pourtant, les deux premiers actes, il y a beaucoup de références communes, comme le dit Arnaud. C'est les peintures, tout le monde a ce genre de propagande de peinture un peu en tête. C'est les premières photos, c'est des ambiances. Donc, en fait, on va dire les deux premiers actes sont issus de la peinture, alors que le dernier est aussi issu de films et issu d'histoires qu'on nous a racontées. Enfin, les sources ne sont plus les mêmes. Et ça aussi, je pense que ça change l'interprétation que nous, on a posée sur les différents événements, sur les grands personnages et tout ça, quoi.
Si je
abonder, compléter ce que dit Stéphane. Il y a, effectivement, on commence en 1827 et en 1827, c'est charmant. Il y a des très beaux costumes, il y a des très belles lumières et les armes même sont belles. Les soldats sont décoratifs parce que c'est loin. Parce que c'est loin et qu'on peut effectivement regarder ça à la manière des orientalistes du 19e en trouvant ça merveilleusement charmant. Et puis progressivement, le temps passe et on se rapproche effectivement des temps présents. Et il y a toujours pendant la représentation un moment très important où le public sursaute. C'est quand tout à coup, on prononce il y a un journaliste, il y a une scène qui représente une scène comme ça d'un journaliste qui suit un responsable qui est ministre de l'Intérieur à l'époque et qui appelle le ministre pour qu'il regarde vers l'appareil photo. Et donc, il l'appelle par son nom et dit « Monsieur Mitterrand ». Et il y a toujours une sorte de petit sursaut comme ça dans le public. Il y a tout le monde qui saute sur son siège. Parce que d'un seul coup, c'est pas loin. C'est pas loin. D'un seul coup, c'est pas loin de maintenant. On sent que presque, je sens dans parmi le public le côté ça va être mon tour. Ça va bientôt être mon tour. Ça va bientôt être à moi de m'intégrer dans cette histoire-là, quoi. Et quelle place je prends dans cette histoire-là. Comprenez-moi bien, hein, quand je dis que c'est charmant, c'est parce que oui, on peut regarder ça comme un tableau lointain qui nous concerne pas. Et puis au fur et à mesure qu'on tourne les pages de ce livre d'images, eh bien, elles sont de plus en plus proches et on prend progressivement conscience que si c'est une histoire dans laquelle je suis et dans laquelle il va falloir aussi que je me place et comment je me place dans ce flot d'images et d'histoires.
Et en plus, je pense que là où le spectateur ne le voit pas venir, c'est que c'est très progressif. Effectivement, il n'y a pas un moment où ça tombe, le tranchet tombe, c'est progressif. Il y a plusieurs fois l'intervention, par exemple, des militaires dans le spectacle où, effectivement, au début, c'est avec les uniformes bleus et rouges. Et d'un coup, sur une image, le militaire est arrivé deux heures après et en tenue de camouflage. Et on fait « Ah ouais !» Et ben, on est passé à un autre siècle, quoi. Et avec d'autres moyens, avec d'autres choses comme ça. Et je pense que ça... on le voit pas venir tout de suite. On est un peu pris dans une espèce de cercle comme ça qui avance et qu'on voit pas. Et d'un coup, on prend conscience de tout ce qu'il y a eu avant. Et je pense que ce retour-là à la réalité est pas facile, quoi.
On a, c'est peut-être le moment de parler de ça. C'est à l'écriture, on a choisi une forme qui est celle de la tragédie classique. C'est pas du tout un hasard hein, par rapport à cette histoire. Tout au long de l'étude des documents et puis de tout ce qu'on a pu avoir sous la main, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours eu des personnages pour décrire ce qui allait se passer, les risques qui pouvaient arriver, etc. Et puis finalement, ça se produit quand même. Et puis avec une espèce de construction comme ça en cycle où il y a une sorte de Cassandre qui annonce le drame qui arrive, quelqu'un qui propose une solution et puis finalement on va quand même vers le drame. Et cette structure tragique, on l'a adoptée dans tout ce qu'elle a de plus traditionnel, hein, avec les trois actes, le prologue, l'estasiment, enfin voilà. Ça nous a permis de présenter cette histoire finalement avec ses oppositions, avec ces personnages qui pensent qu'on aurait pu faire autrement, qui proposent une solution, ceux qui sont contre. Et puis ça permet au spectateur justement, c'est là qu'on disait tout à l'heure que le spectateur doit travailler beaucoup. C'est le personnage manquant, même s'il y en a 90 dans ce spectacle. C'est le personnage qui dans son cerveau juxtapose les différents discours qui cohabitent à une même période et qui mène à la solution. Au début de l'indépendance de l'Algérie, qui se passe d'ailleurs plutôt dans le sang. C'est donc cette construction tragique qui nous a permis d'amener ça et de laisser le spectateur juge finalement. Et c'est sans doute pour ça que chacun y trouve aussi sa vision. Et donc c'est non pas, je pensais à ça tout à l'heure, on a écrit un spectacle qui s'appelle Une Algérie, non pas l'Algérie. Et chacun y trouve une vérité et non pas la vérité.
Elle a plusieurs aspects, la vérité. L'émotion, on en a beaucoup parlé, c'est peut-être aussi l'intérêt que peuvent trouver les spectateurs, spectatrices, c'est que l'histoire ne crée pas forcément d'émotion quand on se plonge dans un livre ou même dans des cartes postales, c'est pas évident. Et vous faites vivre une culture, vous rendez vivant une culture algérienne. Alors évidemment, il y a l'histoire de la colonisation, mais en même temps, avec ses costumes, cette mise en scène, ses lumières, cette musique, vous mettez en lumière une culture quand même, non ? Cette culture qui a été colonisée, certes, mais vous les mettez en lumière.
Encore une fois, c'est vraiment... Il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle... Mouloud Feraoun, qui était écrivain, instituteur, qui entretenait une correspondance avec Camus tout au long de la guerre d'Algérie, justement. Et c'est quelqu'un qui pensait être entre deux cultures pendant un temps. Et un jour, il écrit à Camus qu'il a compris, qu'il pensait longtemps être assis entre deux chaises, et qu'il venait de comprendre qu'on était toujours assis sur sa chaise. Et je pense que pour qu'on travaille bien sur ce sujet, on ne peut le faire que depuis sa chaise. Et que notre chaise, elle est à La Neuville-sur-Essonne. Et que c'est bien un point de vue depuis ce que nous sommes, depuis où nous sommes, depuis le moment où nous sommes. Pourquoi je raconte tout ça ?
Parce que moi, la question que je me pose, c'est les spectateurs, ils vous disent c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça. Alors je me demande aussi, est-ce qu'il n'y a pas, de la part notamment des spectateurs algériens, une sorte de nostalgie peut-être fantasmée, hein, mais vous parlez de leur culture quand même aussi, qu'ils connaissent peut-être mal aussi, sinon par le discours familial et aussi par cette documentation populaire dont je parlais, le cinéma, les cartes postales, les livres, mais pour certains, ils ne sont peut-être plus allés au pays, ou alors... ils ont quitté un pays qui n'est plus le même depuis cette guerre d'indépendance, par exemple. Comment ça se fait que les gens ils vous disent que c'est vrai, alors que c'est du théâtre, c'est une fresque historique. Et je me demandais, est-ce que c'est pas aussi parce que vous rendez hommage aussi à l'histoire de ce lieu. Enfin, vous mettez le focus, j'allais dire, sur une période, sur un temps et puis un espace. Peut-être que ça les touche aussi, qu'on parle d'eux.
Je vais peut-être encore répondre à côté,
oui,
mais je vais continuer dans notre discours de théâtreux. C'est une tragédie, et ce qui nous occupe, c'est d'être dans un lieu unique, ou même un personnage unique, c'est cette Algérie, c'est une Algérie, notre Algérie à nous, les Minuits. Et donc, tout se passe en Algérie. Tous les actes, toute la tragédie. Il y a des exceptions à la règle, qui sont le prologue et les stasima, qui sont des intermèdes. Le prologue commence chez nous, chez les Minuits. Les stasima sont hors d'Algérie. Ils sont des respirations entre ces actes qui sont de plus en plus tragiques. Ils sont hors d'Algérie et ce sont des petits rafraîchissements, on va dire, qui se passent l'un à Marseille, l'autre à Paris pendant l'exposition coloniale, et qui traite justement d'une autre colonie qui est celle de l'Indochine. Et puis, c'est ça, c'est en fait pourquoi les gens se reconnaissent, c'est parce qu'on a un seul sujet, un seul lieu, c'est une Algérie, peu importe l'époque. Mais c'est qu'en fait, on parle toujours du personnage principal qui est l'Algérie. Et tous les autres personnages qu'on peut croiser, il n'y a pas un seul qui revienne et pourtant c'est toujours les mêmes. Ils constituent tous un petit bout, une petite un petit atome de cette Algérie dont, qui est notre sujet.
Il y a aussi, je crois, je comprends que les questions qui nous sont adressées soient adressées à l'histoire et à quelque chose, à une démarche historique. Mais nous, ce qu'on prétend avoir fait, c'est vraiment une démarche strictement théâtrale. Et Mathias, tant pis, je vais reprendre un truc qu'il aime dire souvent, mais il aime bien raconter toujours, et il a tellement raison, qu'un spectacle, c'est quelque chose qui se passe à mi-chemin entre le travail de l'acteur et l'imaginaire du spectateur. C'est vraiment quelque chose qui se termine à mi-chemin entre ces deux personnages, l'acteur et le spectateur. Et si chacun peut finir le spectacle en disant « tout est vrai », c'est parce que je pense que ce spectacle amène à une introspection, à aller chercher en soi c'est quoi notre part, c'est quoi la part de cette histoire qu'on a tous en nous. Ça amène à interroger la part des images que nous avons de cette histoire-là. Et donc c'est pour ça, c'est pas nous, c'est pas notre faute. c'est quelque chose qui se passe à mi-chemin. Bien sûr, je plaisante bien sûr. C'est bien évidemment nous qui proposons ce travail-là.
Parce qu'après, je vais rebondir, Stéphane, oui.
Oui, c'est aussi le fait que les spectateurs qui nous ont dit « c'est ça, c'est exactement ça, c'est la vérité », leur vérité, c'est du souvenir. On sait que les souvenirs aussi sont un peu refaçonnés comme on a envie, un peu comme les rêves, quoi. Et c'est aussi notre matière de travail. On a travaillé sur des souvenirs fantasmés, sur des représentations plus ou moins réelles des choses. Et du coup, effectivement, l'alchimie fonctionne parce qu'on parle de la même matière de base, on va dire, qui est le souvenir. Il y a aussi le fait que moi, je trouve que c'est très dur de répondre à cette question parce que nous, on est sur scène et que du coup, y a plein de choses où on n'a pas vu le spectacle, étant donné qu'on est sur scène. Du coup, souvent, c'est compliqué de répondre à ces questions mais pourquoi le public interprète comme ça? Parce que nous, fondamentalement, on joue le spectacle et on donne notre partie. Et si on commence à se soucier de comment le spectateur va commencer à interpréter telle scène ou telle scène, on n'est plus dans le moment de partage où on doit nous donner notre travail de faire le spectacle. Et après, c'est la part du travail du spectateur de recréer tout.
Mais alors, Mathias, du coup, vous ne vous posez pas cette question parce que, Mathias, donc, le théâtre se situe entre le travail du comédien et l'imaginaire du spectateur. Et au moment où vous mettez en scène, où vous écrivez la pièce, et puis après que vous la mettez en scène, et puis que vous la jouez, vous n'essayez pas, alors excusez-moi l'expression, mais de manipuler le spectateur. Ça serait bien qu'il pense, on aimerait bien faire passer ce message. Est-ce que, c'est une question que je pose naïvement. Est-ce que vous, il y avait une intention de faire passer un message au-delà du théâtre que le spectateur? Il vous a dit c'était vrai déjà. Est-ce qu'il y avait peut-être pas cette volonté qu'il dise cela, mais est-ce que vous aviez une intention en tant que comédien et puis aussi auteur de jouer dans l'imaginaire du spectateur, qu'il retienne quelque chose?
Alors certainement, mais alors pour le coup, on s'en fout complètement. C'est-à-dire que je pense qu'on est... je prendrai l'image de la peinture parce qu'elle est très parlante. Évidemment, quand on peint un tableau, on a une intention. Et puis à un moment, il est fini, on le livre à l'œil du spectateur. Et c'est pas forcément ce qu'on a voulu y mettre qui sort. Et je crois qu'il y a une honnêteté quand on est auteur, quel que soit le domaine, c'est de dire on fait avec notre intention. Moi, j'aime pas forcément la mettre en avant. On s'en fout. Voilà, c'est ma seule réponse.
Notre travail, d'ailleurs, en tant qu'auteur, quand on travaille à l'écriture de théâtre, c'est de ménager de l'air. C'est de ménager de la place. Ce qui nous obsède quand on écrit, c'est justement de ménager de la place au spectateur. Pour nous, le texte de théâtre est un texte en creux, est un texte plein d'air, plein de creux, plein de vide. Et parce qu'il faut... qui est la possibilité pour le spectateur de s'y intégrer. On a beaucoup répété depuis tout à l'heure, ce que nous disent souvent les spectateurs, tout est vrai. On pourrait, si on voulait s'amuser, dire « et pourtant, tout est faux ». Tout est faux, il n'y a rien de plus faux qu'un spectacle de théâtre, ce n'est qu'artifice. On est ici et maintenant dans un décor qui est faux, avec des costumes qui sont faux, avec des mots qui... Vous voyez, et c'est vraiment en ménageant cette immense illusion, mais en ménageant dans cette illusion beaucoup d'air, beaucoup de place pour le spectateur, que peut surgir quelque chose qui nous échappe totalement.
Moi, sur les messages qu'on a voulu passer, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de le dire. C'est que une Algérie 1830-1954, c'est une tragédie. On l'a dit. Et je pense que c'est ça le seul message que nous portons. Et nous le disons dans le spectacle, nous citons un ami qui s'appelle Samir, qui était un ami avec qui est algérien. Et qui nous disait, mais surtout précisez bien que la présence française en Algérie, c'est des massacres, massacres, massacres. Et il nous a exhortés à le dire, à le montrer. Et puis on peut dire aussi quelle autre phrase nous a portée. C'est, alors je ne la connais pas par cœur, c'est Alexis de Tocqueville qui, dès la fin du 19e siècle, disait que l'Algérie, c'était... c'était bientôt une arène murée dans laquelle deux peuples combattraient à mort et qu'il n'en resterait qu'un. Je la cite, il faudrait la retrouver parce qu'elle est très très bien tournée, mais c'est ça. Et ce n'est que ça en fait que nous représentons. On n'a pas voulu dire autre chose et il me semble que l'Algérie à cette période, ce n'est rien d'autre.
Et pour compléter ce ressort tragique, ce qui est frappant dans l'histoire de l'Algérie colonisée, c'est vraiment que tout est balayé. Tous les efforts, les bons et les méchants sont balayés. Tous par le flot de l'histoire, à la même vitesse. Les gens les plus clairvoyants seront balayés comme les plus aveugles. Et c'est ça qui nous a frappé effectivement dans cette histoire-là. Il y a constamment, effectivement, comme l'a dit Mathias, des Cassandres qui annoncent, qui prophétisent la catastrophe. Et pourtant, le cours de l'histoire ne sera jamais inversé. Voilà, et c'est pour ça effectivement que nous, en tant qu'auteurs, on lui a donné cette forme de tragédie grecque, parce que la tragédie grecque, c'est ça, la tragédie classique, c'est ça, c'est dès la première seconde, on sait comment ça va se terminer, et pourtant on est témoin du travail des humains qui se débattent, qui essayent de faire leur travail d'humain. Et d'inverser le cours des choses, et pourtant le cours des choses va aller à son terme. Voilà.
Alors, cette histoire, elle est violente. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes censuré en vous disant qu'il ne fallait peut-être pas attiser certaines rancœurs, certains passages de l'histoire
Non. Non. Non, non, on n'a jamais mis d'autocensure. Finalement, on a... Dans toutes nos recherches, moi je trouve qu'une des choses qu'a axé notre travail, c'est justement comme le coup d'éventail, c'est de jamais dire c'est ça le fait unique de ce moment-là. C'est toujours dans les moments qui créent plus de polémiques, on va dire, de laisser le champ justement très ouvert. Par exemple, il y a les répressions aussi de Sétif où moi j'avais travaillé à la recherche des chiffres et des faits, et où il n'y a aucun chiffre où on s'est mis d'accord. C'est très flou, et la fourchette est très large. Je crois qu'elle allait de 500 à 300 000 morts. Voilà, il faut choisir lequel va être le bon, quoi. Donc là-dedans, on a décidé de ne pas annoncer de chiffre, d'annoncer « il y a une répression ». Et on a eu cette méthode de travail assez... enfin, à chaque fois qu'on a créé des scènes, mais c'est pas dans une volonté de dire ça, on peut pas en parler parce que c'est de la propagande d'un côté ou c'est de la propagande d'un autre, ou c'est, enfin, c'est pas de la censure. C'est on sur ces faits-là, on ne peut pas se placer. Du coup,
c'est ça. Ouais, moi, il me semble qu'on a alors, on a travaillé sur des vérités, sur des images de propagande, etc. On a quand même essayé d'éviter une chose, c'est l'erreur. L'erreur stricte historique. On n'est quand même pas idiot de se lancer dans un sujet comme ça sans vérifier. Donc, quand la source est fiable ou semble fiable, si on peut la citer, c'est encore mieux. Comme ça, on sait qu'il ne s'agit pas d'un discours plaqué, mais bien de la source que l'on cite. Et puis, on a fait relire notre copie aussi, quand même. Il faut être un petit peu humble à ce niveau-là, par une spécialiste de l'histoire de l'Algérie, qui est Sylvie Thénault, qui a aussi fait la préface de notre livre. On a évoqué Gerardo tout à l'heure, en tout début d'émission. On n'en a pas reparlé, mais c'est lui qui a fait le premier travail, le tout premier travail d'écrémage de la documentation, puis qu'on a complété ensuite par la suite. Mais voilà, c'est quand même le travail de base minimum pour, quand on recherche des vérités, au moins éviter l'erreur. Voilà, c'est la seule. C'est pas une censure, c'est juste une précaution nécessaire.
Il y a peut-être un autre message aussi qui est sous-tendu par notre spectacle, c'est que, effectivement, cette mémoire de l'Algérie colonisée, on peut penser que il y en a des mémoires et qu'elles s'opposent. On peut aussi penser que c'est un patrimoine qu'on a tous en commun et qu'on doit regarder ensemble. C'est possible et c'est ce qu'on... Enfin, on espère que c'est possible. De la considérer ensemble. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui nous est commun. On peut considérer aussi que c'est quelque chose, voilà, qui autour de duquel on peut s'assembler pour regarder ensemble. Et finalement, symboliquement, c'est ça qu'on propose aux spectateurs du théâtre, c'est à s'asseoir côte à côte pour regarder ensemble le même objet. Et donc, encore une fois, d'être assis côte à côte et de regarder ensemble. Donc, oui, c'est possible. C'est possible puisqu'on le fait tous les soirs. Tous les soirs, les gens s'assoient côte à côte pour regarder ensemble la même chose. Et voilà, c'est ça la magie du théâtre.
Et oui, et vous êtes vivant, c'est du vivant. Non, parce qu'avant l'émission, on était en train de plaisanter sur les écrans de télévision. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, vous présentez encore cette œuvre. Qu'est-ce qui a changé pour vous, les uns les autres, dans votre approche de cette œuvre avec le temps, 10 ans plus tard? Là, vous allez bientôt la présenter à Chalette, ce sera le 1er mars au hangar. Qu'est-ce qui a changé? Vous êtes en train de faire les répétitions, alors il ne faut pas tout dire, hein, mais vous, dans votre approche de cette œuvre depuis son écriture et en fin 2007, rien du tout.
Ah, c'est terrible, non. On va encore...
Vous êtes encore dedans.
Mais non, mais on va encore répondre en tant que praticien du théâtre. Ce qui a changé, c'est notre pratique du théâtre.
Oui.
C'est notre pratique du théâtre. Par bonheur, on a 12 ans d'âge et ça sert.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'on, j'ai l'impression de pratiquer mieux mon art, fort de plein d'expériences nouvelles. Et je suis hyper heureux de reprendre ce spectacle parce que j'ai l'impression d'être mieux armé dans ma pratique artistique pour reprendre ce spectacle. Et ça, c'est quand même un grand, grand plaisir, quoi.
Bien sûr.
De se dire que le temps qui passe, ça a quand même des conséquences positives. et voilà. Voilà, ouais. Ouais,
Amélie.
Ouais.
Ce qui a changé, c'est 5 kilos de plus, hein, déjà. Donc, je ne rentre plus dans tous mes costumes. Non, mais exactement comme mon camarade Arnaud et comme les autres, beaucoup plus de métiers... Je pense que pour les interprétations, c'est, j'imagine, être plus sage, plus mature, avoir beaucoup plus de nuances dans le jeu. Et pourtant, j'ai eu l'impression d'avoir énormément grandi sur ce spectacle quand nous l'avons créé. C'est là que j'ai appris mon métier. Et pourtant, je pense être bien plus à l'aise et plus, ouais, plus sage, on va dire. Savante.
Alors moi, une Algérie en expérience personnelle, c'est la première création théâtrale que j'ai eue. Je suis arrivé tout frais sur le plateau avec expérience proche de zéro du théâtre. Donc tout le travail a été à faire en tant qu'acteur sur ce spectacle. 12 ans plus tard, beaucoup plus d'expérience, je pense, au compteur. Et du coup, je sais que à la création, j'étais pas du tout serein sur énormément des rôles. Or aujourd'hui, l'expérience permet d'être plus tranquille, plus détendu, en particulier avec les répétitions et tout ça. Et du coup, là, c'est un vrai plaisir de revenir et de dire bon, allez, maintenant, les scènes qui étaient très compliquées à l'époque, ça devrait mieux se passer. Et ça donne aussi envie de pousser, d'amener beaucoup plus loin les personnages, de ramener plus loin les costumes, d'amener plus loin l'ensemble des accessoires. Là, il y a une espèce d'envie comme ça de dire plus de tout sur le plateau. Et à la fois, il faut aussi quand même s'en préserver. Il y a un moment où il ne faut pas agresser l'essence même du spectacle en essayant de l'amener trop ailleurs et trop... en permanence garder le fil du spectacle.
Stéphane, en 2007, tu avais déjà joué dans la pièce, et aujourd'hui, donc, tu nous expliques que il y a des choses aussi qui peuvent un peu changer au niveau. Il y a toute une dynamique qui se met en place, notamment importée par la jeunesse des nouveaux venus qui ne connaissent pas la pièce.
Bah oui, forcément, comme dans toutes les histoires de troupes, on est amené à avoir des départs, des arrivées, du sang frais, qui permettent de redonner de l'énergie. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de reprise de ce spectacle, c'est parce que on n'est pas la même équipe de comédiens qu'en 2007. Et du coup, les rôles sont à reprendre, réapprendre, recréer même pour certains. Et du coup, recréer même certaines scènes pour qu'elle soit cohérente aujourd'hui, quoi.
Merci à vous. Plus d'informations, évidemment, sur théâtredesminuits.com. Ça doit être comme ça, le site. Oui, voilà, c'est pas compliqué aujourd'hui avec Internet. Une représentation, donc, le 1er mars, ce sera à Chalette-sur-Loin, au Hangar. Et puis, il y aura 4 autres représentations qui suivront ici même, au minuit. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de renouveler cette expérience-là qui va avoir lieu le 1er mars, d'exporter le spectacle hors des murs des minuits, voilà, où les spectateurs, spectatrices savent qu'ils peuvent venir justement vivre un moment de théâtre, parce qu'évidemment, une Algérie 1830-1954, c'est avant tout une pièce de théâtre. C'est un travail du spectateur qui sera sollicité pour celles et ceux qui viendront. Voilà, indépendamment d'ailleurs de celui du travail d'acteur, parce que eux, ils seront sur scène et ils savent très bien qu'ils auront affaire à votre imaginaire, mais ils ne nourrissent aucune intention de manipulation à votre égard, sinon justement de multiplier les points de vue et surtout vos émotions face à cette période de l'histoire qui évoque la tragédie. Donc il s'agit d'une tragédie en 3 actes, je le rappelle, le 1er mars à Chalette-sur-Loing, au Hangar. Il y aura également donc d'autres représentations au Théâtre des Minuits, mais ne ratez pas cette première. Donc ce sera la première, hein, depuis quand vous ne l'aviez pas joué? Ça remonte à quand?
2011, ouais, c'est ça, c'était ça,
Bourgogne,
la dernière.
En Bourgogne même.
Ouais, donc allez, 8 ans.
En Bourgogne?
Oui.
Ah oui, donc vous l'avez déjà joué à Huarco Minuit?
Oui.
Ah
oui, tout de même.
Ah oui, quand même, tout de même. Peu. Merci à vous.
Merci.
Merci. Ah, merci.
Merci, Daniel.
Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Bondi Bloc Café.
www.bondibloccentre.fr